Vous savez que les Mauritaniens sont à 100% musulmans, mais il y a une forte présence d'étrangers qui viennent un peu de tous les continents et qui viennent surtout de l'Afrique, des pays voisins de la Mauritanie. Et parmi ces personnes, il y a beaucoup de familles chrétiennes et ce sont souvent des familles assez pauvres, des papas et des mamans qui viennent pour chercher du travail en Mauritanie. Les mamans pour faire la lessive, pour faire le ménage, des papas qui sont peintres ou maçons. Et donc, mon travail principal, c'est un engagement au niveau des enfants. C'est d'accompagner ces enfants, ces jeunes, dans leur foi chrétienne, dans ce contexte très particulier d'une république islamique. Souvent, ces enfants, ces jeunes, sont un chrétien dans une classe de 40 ou de 50 Mauritaniens musulmans. C'est à la fois un travail de catéchisme, mais aussi presque les initier au dialogue islamo-chrétien. Il faut dire que c'est d'abord une église très jeune en Mauritanie qui... est là depuis 45 ans. C'est une église qui est au service des musulmans de différentes façons. Ça peut être à travers des bibliothèques, donc des pères qui offrent des salles de lecture, des livres scolaires. Et à travers ces bibliothèques, se tissent des liens, se tissent aussi des réflexions ensemble, un dialogue vraiment entre chrétiens et musulmans.
Au-delà du dialogue islamo-chrétien, est-ce que l'église a d'autres missions?
Je trouve que c'est assez extraordinaire dans cette république islamique qu'il y a donc aussi... un travail de première évangélisation à faire. Par exemple, les gens de Guinée-Bissau, souvent dans leur pays, ce sont des gens qui pratiquent les religions traditionnelles africaines, mais une fois sortis de chez eux, il y a moins de pression de la famille, ils arrivent ailleurs, ils se disent chrétiens et ils commencent le catéchuménat. Ce qu'il y a par exemple à Nouakchott, il y a une quarantaine de personnes adultes qui demandent de se préparer au baptême.
Comment cette présence de chrétiens étrangers est-elle perçue par les autorités mauritaniennes?
Je dois dire que l'Église a une présence très discrète. Donc à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur des bâtiments, nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais dans la vie de tous les jours, dans les quartiers, nous devons être très discrets. Je veux dire qu'avec nos amis, les Mauritaniens qui travaillent avec nous, nous sentons que nous sommes très appréciés et très aimés. Même il y a certaines écoles privées qui demandent de plus en plus aussi des sœurs ou des pères pour l'enseignement. Donc, avec les gens qui sont proches de nous, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais je pense que des gens qui nous connaissent de plus loin, qui nous connaissent moins, il y a une certaine peur. Les gens se demandent, mais qu'est-ce que ces chrétiens viennent faire ici?
Dans le dialogue islamo-chrétien, concrètement, quelles sont les choses qui sont faites au quotidien?
Ce dialogue islamo-chrétien, il se vit d'abord sur le terrain. C'est-à-dire, c'est cette collaboration de tous les jours, cet engagement pour le bien du peuple. Ce qui est très fort à Mauritanie, à l'intérieur de l'Église, c'est Caritas, qui est devenue une ONG mauritanienne. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que presque tous les employés de Caritas sont des Mauritaniens musulmans. Donc il y a seulement quelques cadres qui sont chrétiens. Et ensemble, chrétiens et musulmans, nous travaillons pour le bien du pays, aussi bien à la capitale Nouakchott qu'à l'intérieur. Il y a des projets dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture, dans le domaine de l'eau aussi. Vous voyez bien que c'est un pays en plein désert. C'est extraordinaire, cette collaboration. Et c'est aussi la mission de l'Église.
Alors, vous êtes impliqué au jour le jour dans ce pays. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les principales difficultés que rencontrent les Mauritaniens?
La Mauritanie est un pays assez spécial parce qu'il se situe à la frontière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Donc, ce qui veut dire que c'est presque peut-être l'unique pays en Afrique où le monde arabe et le monde négro-africain vivent ensemble. Et ça ne passe pas tous les jours très facilement. Donc, les gens doivent apprendre à vivre ensemble, peu à peu. Chaque ethnie a sa langue. Heureusement, il y a l'islam qui lie toutes ces ethnies-là. Même l'islam peut avoir des nuances différentes entre le monde arabe et le monde négro-africain. Mais donc, il y a vraiment le défi de la réconciliation entre les différentes ethnies en Mauritanie. Et là, peut-être que, par exemple, une sœur qui est un centre féminin et qui accueille des jeunes filles de différentes ethnies, il peut faire quelque chose dans le sens de la réconciliation, de l'estime pour les autres, Je pense que là, nous avons notre petit rôle à jouer très discrètement. Donc, un autre problème, c'est l'éducation de la jeunesse et la scolarité. C'est-à-dire, la Mauritanie change peut-être tous les 6 ans le système d'éducation, ce qui n'est pas évident. Donc, il y a cette multiplicité de langues dans l'enseignement. Les négro-africains n'ont pas forcément envie d'apprendre l'arabe à l'école. Donc, là aussi, au niveau des langues et de l'école, il y a beaucoup de choses à faire et ce n'est pas facile.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu peut-être certains témoignages ou des choses que vous avez vues justement qui vous ont marqué?
Je vais vous raconter une anecdote. Nous avons un ami que nous appelons notre oncle, un Mauritanien arabe. Quelques jours avant Noël, il me téléphone et il dit « Mais ma sœur, il y a longtemps que vous n'êtes pas venue dans mon jardin. Vous savez bien que j'ai des sapins dans mon jardin et je sais que bientôt c'est Noël pour vous. Alors, je vous invite à venir, vous pouvez apporter vos lampions. » Vous pouvez décorer mes sapins et je vous donne l'électricité gratuitement. J'ai trouvé ça extraordinaire, cet homme musulman qui sait que Noël approche et qui nous offre son jardin pour que nous puissions fêter chez lui. Et un jour, je lui ai demandé, mais est-ce que vous savez bien que nous venons prier ici à la façon chrétienne? Alors, il m'a répondu, ben oui, je sais que vous êtes des chrétiens, mais mon jardin, c'est un espace pour tout le monde. Et en plus, il a mis à la porte de son jardin un grand panneau. Ici sont les bienvenus des gens de toute religion, de toute ethnie et de toute langue.
Et ça, est-ce que c'est révélateur de la société mauritanienne en général ou est-ce que vous vous heurtez souvent à des difficultés ou à des refus, peut-être à des incompréhensions?
Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est révélateur de l'ensemble de la société, tandis qu'existent aussi très fort donc, des Mauritaniens qui sont très réticents envers notre présence en Mauritanie. Vous savez que les musulmans veulent que tout le monde voudrait être musulman. Donc, nous sentons aussi la pression de la conversion très fortement, surtout par des personnes qui nous connaissent moins. Mais il y a de tout. Il y a de tout dans cette Mauritanie, comme il y a de tout dans le monde musulman. Ça va d'une très grande tolérance, une très grande estime pour nous, jusqu'au rejet.
Quelles sont maintenant vos espérances pour le futur?
J'espère vraiment pour la Mauritanie que cette cohabitation entre les différentes ethnies, ça va aller en s'améliorant. Je vois déjà qu'il y a beaucoup de mariages mixtes où, par exemple, un poulard peut épouser une femme arabe ou l'inverse. Et j'espère que cette tolérance et cette cohabitation va aller de l'avant. Mais pour cela aussi, il faut que le gouvernement prenne des mesures pour permettre que chaque ethnie, chaque culture puisse s'épanouir entièrement.
Bimigalo, igalo, igalo, fondo jere jambaro mala. Bimigalo.